Alors, notre troisième intervention de l'après-midi avant la pause, avec Simon Mimouni. Donc, on reste avec l'école pratique des hautes études, mais là, sur la figure de Marie, Marie de Nazareth, une figure au centre des conflits doctrinaux du IIe au Ve siècle.
Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de Marie de Nazareth, et notamment d'un point de vue, disons, de théologie politique. J'ai voulu illustrer mon propos par quelques images que j'ai tirées de Santa Maria in Trastevere, et je vais, au fur et à mesure, vous passer quelques diapositives pour vous distraire. Alors, Marie de Nazareth, la mère de Jésus, a été une figure éminente du culte chrétien à partir du IVe et du Ve siècle. Mais l'a-t-elle été à partir du IIe siècle? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette contribution en se fondant essentiellement sur le protévangile de Jacques, un texte important de la première moitié du IIe siècle, qui concerne la conception et la naissance de Jésus, mais aussi la conception et la naissance de Marie. Il n'est pas question ici d'accepter, comme le propose Thierry Murcia, la thèse que Marie de Nazareth soit à identifier d'une manière ou d'une autre à Marie de Magdala, dont on vous a parlé tout à l'heure. La problématique de cette recherche va porter essentiellement sur la question suivante. Pourquoi s'est-on appuyé sur une figure féminine, celle de la mère, pour défendre une certaine vision d'une figure masculine, celle du fils? C'est évidemment une manière moderne de poser cette question qui ne fonctionne nullement ainsi dans l'Antiquité, où le culturel et le religieux fonctionne en relation, enfin dans l'Antiquité qui m'intéresse, mais toute l'Antiquité, fonctionne en relation avec la pureté. La pureté. Entre une introduction et une conclusion, il va être question de Marie de Nazareth dans les conflits religieux du IIe siècle et dans ceux du IVe siècle. Est-ce à dire que la figure de Marie n'intervient pas dans les conflits du IIIe siècle? Ce n'est pas sûr, mais les sources manquent, si ce n'est quelques rares documents qui portent sur le culte marial, comme par exemple « Sub tuum presidium »,« sous ta protection », retrouvé en Égypte, qui est une prière à Marie Théotokos, le terme y figure, invoquée comme protectrice. On va présenter donc le protévangile de Jacques, un texte qui a une portée considérable, tant en Orient qu'en Occident, en essayant de donner quelques éléments littéraires, historiques et doctrinaux. Le protévangile de Jacques, connu aussi sous le titre de « Nativité de Marie », est une œuvre qui rapporte la conception, la naissance et l'enfance de Marie, ainsi que la conception et la naissance de Jésus. Il y a aussi question de Zacharie et d'Élisabeth, les parents de Jean le Baptiste. D'emblée, il convient de souligner qu'il s'agit d'une composition harmonieuse où est affirmée une doctrine particulière, à savoir que Marie est restée vierge malgré la conception et la naissance de Jésus. J'y reviendrai. C'est par conséquent, on s'en doute, un texte capital, tant à cause de son ancienneté que de son influence. Cette dernière s'est d'ailleurs exercée aussi bien sur le plan de la doctrine que sur celui de la liturgie, mais aussi sur celui de l'iconographie. J'en ai donné quelques exemples rapidement, je peux y revenir après. Même si son genre littéraire est difficile à déterminer de manière évidente, contrairement à ce qu'affirment nombre de critiques, le protévangile de Jacques n'est nullement une histoire édifiante issue de milieux populaires. Et par conséquent, un témoin de la piété populaire envers Marie. c'est plutôt une œuvre exégétique, à la manière sans doute des commentaires midrashiques que l'on trouve abondamment dans la littérature judéenne, toutes tendances confondues. Dans le protévangile de Jacques, Marie n'a guère de personnalité. Elle n'est qu'une figure passive aux côtés de Joseph, présenté très âgé, qui joue un rôle important dans le récit. Cela n'a pas empêché ce texte de nourrir par la suite le culte marial, que ce soit en Orient ou en Occident. Il semble que le protévangile de Jacques puisse être daté d'entre 100 et 150 et localisé à Jérusalem ou dans ses alentours. Par ailleurs, il ne serait pas impossible que son auteur ait appartenu au cercle de la famille de Jésus, proche de Jacques le Juste, qui, face aux tentatives plus ou moins docétisantes de son époque, défend la réalité humaine de Jésus en même temps que son caractère divin. En d'autres termes, il faudrait supposer dans ce cas une date antérieure à 135, moment où les chrétiens d'origine judéenne sont chassés de Jérusalem en même temps que les autres judéens et remplacés par des chrétiens d'origine grecque. Selon d'autres suppositions, le protévangile de Jacques daterait de la seconde moitié du IIe siècle et viendrait de Syrie ou d'Égypte. Ce n'est pas ce que j'ai retenu. La langue du protévangile de Jacques, la langue originale s'entend, est selon toute apparence le grec. Il se pourrait cependant, si l'on acceptait les propositions retenues ici, quant à sa localisation, sa datation et son auteur, que cette œuvre aurait d'abord été écrite en araméen avant d'être traduite en grec. Mais il s'agit là d'une simple hypothèse à laquelle il ne faudrait pas trop donner d'importance étant donné l'état de la recherche en la matière. Le protévangile de Jacques a beaucoup influencé les développements liturgiques du culte marial à partir du Ve siècle. Et il est aussi très présent dans la littérature théologique grecque, et le fait qu'il ait été regardé comme un texte apocryphe, entre guillemets, ne lui enlève aucune valeur. D'ailleurs, c'est un texte qui est toujours très lu dans l'Église orthodoxe, qui ne le considère pas comme un texte canonique, mais pas non plus comme un texte apocryphe, comme c'est le cas dans l'Église latine. D'un point de vue doctrinal, la thèse centrale du protévangile de Jacques est la défense de la virginité de Marie. Ante partum, avant la naissance de Jésus, in partu, pendant la naissance de Jésus, post partum, après la naissance de Jésus. Une terminologie qui est évidemment tardive, qu'on ne trouve pas dans le texte. Toutes les sources de souillure, une question sur laquelle je reviendrai, sont ainsi écartées. On ne retient pas ici, j'en ai fait une diapositive, on ne retient pas ici que la version grecque du protévangile de Jacques, à l'exclusion de toute autre version latine notamment, qui ne peut être que le fruit de l'imagination de certains chercheurs, qu'ils désignent d'ailleurs comme une source inconnue, une nouvelle source ou une source spéciale, qu'ils reconstituent à partir de divers textes et qu'ils datent du IIe siècle, à cause des rapprochements ténus qu'ils établissent avec le protévangile de Jacques en grec, mais aussi avec la révélation des mages en syriaque, qui serait aussi de cette même époque. Il a certes existé une version latine du protévangile de Jacques, mais elle est aujourd'hui perdue et ne peut être trouvée de manière fragmentaire que dans certains manuscrits. C'est elle d'ailleurs qui est utilisée dans les polémiques de la fin du IVe siècle. Passons maintenant au point 2. Le protévangile de Jacques est le seul texte réellement du IIe siècle où Marie de Nazareth est un personnage relativement important. Dans les autres textes de cette époque, comme par exemple les Odes de Salomon, conservé en syriaque, ou l'Épître des apôtres, conservé en éthiopien, Marie tient une place secondaire. L'accent est mis plus sur la naissance de Jésus que sur Marie. En revanche, dans l'évangile de Marie, dont En revanche, dans l'évangile de Marie, qui est un texte gnosticisant, il n'est pas question de Marie de Nazareth, comme certains critiques l'affirment, mais de Marie de Magdala. Elle a d'ailleurs été refusée et contredite. Il y a toute une littérature là-dessus. Le protévangile de Jacques a, selon toute vraisemblance, été composé en réunissant nombre de traditions pour répondre à des polémiques externes, mais aussi à des polémiques internes. Il a joué sans aucun doute possible un rôle primordial dans les conflits religieux du IIe siècle, lesquels ont porté sur le caractère ontologique de Jésus au sujet de son humanité ou de sa divinité. Conflit qui paraît s'être posé déjà au premier siècle. À l'égard des polémiques externes, le protévangile de Jacques a été écrit pour défendre la pureté de Marie contre la polémique antichrétienne en provenance des milieux judéens non chrétiens qui ont forgé une tradition cherchant à faire de la mère de Marie, de Jésus, pardon, l'épouse adultère d'un soldat romain du nom de Panthère. Je vous ai mis quelques textes, je ne vais pas les commenter. Ces accusations, transmises par Celse, par Origène, pourraient remonter à la fin du 1er siècle, d'après certains critiques, au milieu du 2e, d'après d'autres. Contre ces accusations, l'auteur du protévangile de Jacques affirme clairement la conception et la naissance miraculeuse de Jésus, évitant ainsi de se prononcer sur la paternité de Jésus. Il affirme aussi la naissance miraculeuse de Marie, qui est prédestinée depuis l'enfance à se consacrer au service du Temple de Jérusalem, sa pureté étant alors garantie d'une certaine manière par celle des autorités sacerdotales. À l'égard des polémiques internes, le protévangile a été écrit pour servir dans des conflits intervenus dans certaines communautés chrétiennes, notamment face aux docétisants et aux adoptionnisants, peut-être aussi en faveur des entratisants. Le protévangile de Jacques paraît représentatif des mêmes tendances qui ont conduit à la rédaction des récits canoniques de l'enfance de l'Évangile selon Matthieu et de l'Évangile selon Luc, et à la rédaction des écrits apocryphes de l'enfance, de l'ascension d'Isaïe et des Actes des apôtres, lesquels récits, souvent antagonistes, pourraient être de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle. Le protévangile de Jacques défend en effet le caractère humain et le caractère divin de Jésus, tout comme les récits canoniques, mais pas les récits apocryphes, en se fondant très précisément sur le caractère exceptionnel de Marie, ce qui n'est pas toujours le cas de ces récits. On le constate le protévangile de Jacques est une œuvre de polémique destinée à défendre une certaine idée de la conception et de la naissance de Jésus en se fondant sur une idée similaire relative à la conception et la naissance de Marie. Cette œuvre répond à une polémique venant de l'extérieur, les Judéens, mais aussi à une polémique venant de l'intérieur, sans doute les docétisants pagano-chrétiens, parmi lesquels on peut y voir les martionnites, et les adoptionnisants judéo-chrétiens, parmi lesquels on peut y voir les ébionites. Il ne faut, bien entendu, pas trop forcer le rattachement à ces groupes. C'est, par conséquent, une œuvre dont le caractère amphibologique est incontestable. Le protévangile de Jacques a donc été rédigé dans la première moitié du deuxième siècle, pour répondre sans doute à des polémiques de tout ordre. Je crois que j'ai fait une diapositive. Ça, c'est déjà fait, mais ça, pas encore. Cette œuvre, pour sa compréhension, est à prendre en considération en fonction de ses différents contextes. D'une part, contre les judéens et les grecs, qui soutiennent une origine trop humaine de Jésus. D'autre part, contre les chrétiens « docètes », entre guillemets, qui défendent une origine trop divine du Christ. Ces contextes sont présentés selon le point de vue de l'auteur de l'œuvre. Il est possible d'ailleurs que le second contexte soit antérieur au premier, car le protévangile de Jacques paraît d'abord destiné à une polémique interne au christianisme. En tout cas, c'est entre ces deux extrêmes, un Jésus trop humain ou un Christ trop divin, que tente de se situer cette nativité de Marie, attribuée à Jacques, le juste, le fils de Joseph, et le frère de Jésus. Une telle attribution renvoie forcément la composition de l'œuvre à un milieu chrétien d'origine judéenne, de type nazoréen, pour lequel la figure de Jacques le Juste est fondamentale, puisque fondatrice. C'est aussi pourquoi le protévangile de Jacques présente des tendances qui sont à la fois pour et contre le docétisme de son temps. En d'autres termes, une voie moyenne paraît proposée dans cet écrit. Passons maintenant au protévangile de Jacques et à la question de la pureté de Marie. La question de la pureté de Marie a été traitée de manière excellente dans l'ouvrage de Lily Wong, publié en 2013. L'ouvrage s'articule autour de trois grandes problématiques: la pureté rituelle de Marie, l'impureté menstruelle et l'impureté sexuelle. Pour Madame Wong, le protévangile de Jacques est un texte issu des milieux chrétiens d'origine judéenne. Ainsi, par exemple, la conception de Marie aux alentours de Yom Kippour n'est pas fortuite. Le Messie, destiné à apporter la rémission des péchés, doit naître d'une femme conçu le jour des expiations. Ainsi, autre exemple, Marie est présentée comme un don sacrificiel au temple, Joachim et Anne, ses parents, offrant leur enfant au Dieu d'Israël. Enfin, dernier exemple retenu ici, en raison de l'impureté rituelle qu'entraînent les premières menstrues, Marie doit quitter le temple à l'âge de 12 ans, en conformité avec la prescription de Lévitique 15:31. Le départ de Marie du temple, annonce sa future maternité, jouant un rôle central dans l'intrigue du récit. Dorénavant, ce n'est plus la pureté rituelle de Marie qui va être valorisée, mais sa pureté sexuelle, laquelle est confirmée par trois épreuves successives: l'interrogatoire de Joseph, l'épreuve de l'eau amère et l'examen gynécologique de Salomé. J'en arrive maintenant au point 3 de mon exposé. Marie de Nazareth dans les conflits religieux du IVe siècle. Ce sera un point que je développerai si publication écrite il y a. Dans la seconde moitié du IVe siècle, le protévangile de Jacques a été diversement utilisé par les multiples courants doctrinaux qui se sont affrontés à l'intérieur du christianisme, tant en Orient qu'en Occident. Notons qu'on trouve dans le protévangile de Jacques des éléments doctrinaux qui portent notamment sur la conception, la naissance et la purification de Marie. De plus, en relation avec ces données, on y rencontre des éléments pouvant servir à défendre les thèmes de la virginité in partu et de la virginité postpartum. Mais s'ils ont servi par la suite, même s'ils ont servi par la suite à établir un discours mariologique, ces éléments doctrinaux relèvent encore du discours christologique. En Orient, dans la seconde moitié du IVe siècle, Épiphane de Salamine semble être le premier auteur de langue grecque à utiliser le protévangile de Jacques. Dans un premier cas, pour réfuter les antidicomarianites qui nient la virginité perpétuelle de Marie. Dans un second cas, pour s'opposer aux marianites ou colliridiens qui vouent à Marie un culte quasi-divin. Épiphane de Salamine utilise donc le protévangile de Jacques pour défendre Marie contre les extrémistes des deux bords, ceux qui la considèrent comme une simple personne humaine et ceux qui la considèrent comme une simple personne divine. Constatons qu'au IVe siècle, le débat sur le Fils a rejailli sur la Mère. L'œuvre d'abord utilisée au sujet du Fils sert maintenant au sujet de la Mère. Le célèbre hérésiologue Épiphane fustige l'interprétation déviante du protévangile de Jacques qui en est donnée. Il n'attaque pas l'œuvre lui-même, ça c'est important. Pour lui, le caractère hérétique des utilisateurs de cette œuvre ne justifie en aucun cas son anathème, c'est-à-dire sa disparition par destruction. En Occident, il en a été de même. Les conflits et les données sont certes différents, les effets aussi d'ailleurs, mais le protévangile de Jacques est également utilisé dans des conditions objectives plus ou moins identiques. On connaît au moins deux polémiques doctrinales sur lesquelles le protévangile de Jacques a été utilisé. Le cas d'Helvidius, en 383, qui a nié la virginité postpartum de Marie, en ayant recours au protévangile de Jacques. Le cas de Jovinien, en 393, qui a nié la virginité in partu de Marie, en ayant recours, lui aussi, au protévangile de Jacques. D'ailleurs, il convient de souligner qu'Helvidius et Jovinien paraissent utiliser le protévangile de Jacques de manière fort divergente. Le premier, dans une perspective anti-ascétique, prônant le mariage des religieux et des religieuses. Le second, dans une perspective pro-ascétique, prônant le célibat pour tous les chrétiens. Ben, le salut peut être à ce prix, je ne sais pas. C'est un commentaire. L'un et l'autre utilisent les données du protévangile de Jacques selon leur propre perspective. Ambroise et Jérôme, leurs détracteurs, veulent ignorer et combattre les données doctrinales du protévangile de Jacques. Ils défendent la virginité in partu et postpartum de Marie en les fondant sur d'autres bases. Oui, c'est une démarche qui est très différente de celle d'Épiphane en Orient. Conséquence, le protévangile de Jacques, dans une version latine, a été condamné par le décret de Gélase. Il a disparu en grande partie dans la tradition manuscrite pour ne subsister que de manière très dispersée et très fragmentaire. Il est certain qu'en Occident, c'est l'utilisation du protévangile de Jacques et non pas son contenu doctrinal par des chrétiens marginalisés qui a conduit sa mise à l'index dans le décret de Gélase. Il convient de mentionner la différence d'utilisation et d'utilisateur entre l'Orient et l'Occident, raison principale pour laquelle le protévangile de Jacques ne subsiste qu'accidentellement en latin, alors qu'il est abondamment attesté en grec. Par déduction, on peut affirmer qu'une telle raison, si elle s'avère, fournit la motivation des remaniements qui ont eu lieu alors, et notamment celui de l'évangile du pseudo Matthieu. J'ai sauté ce passage précédemment, mais j'en fais allusion. On peut encore aborder le conflit marial du IVe siècle à partir des premières tentatives d'interprétation théologique du titre marial Théotokos. Au cœur de cette histoire, on retrouve Apollinaire de la Odyssée, une figure importante du camp pronicéen qui a élaboré une théorie controversée sur l'unité du Christ, notamment en excluant l'intellect humain de la constitution du Sauveur. C'est dans le cadre de cette préoccupation plus large qu'il a constitué un outil polémique, qu'il a compris l'opportunité de tenter une appropriation théologique du titre Théotokos, et qu'il a constitué un outil polémique dans la stratégie d'ériger sa propre position en orthodoxie christologique. Diodore de Tars, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice et Théodore de Maupassant se sont tous confrontés à l'interprétation proposée par Apollinaire de la Odyssée et ont cherché les meilleurs moyens d'y réagir. Je voudrais présenter maintenant, mais je vais simplement y faire allusion, je crois que le temps passe vite. J'ai encore du temps, oui. 3 minutes, bon, alors on dira 5 minutes. Je voudrais simplement faire allusion, je vous ai donné quelques éléments, à l'alliance de la mariologie et du monachisme. Et je voudrais passer à la conclusion. Il s'est agi ici, mais c'est une alliance très importante, surtout dans le monde occidental. Il s'est agi ici de traiter des conflits autour de la nature ontologique de Jésus, dans lesquels Marie a tenu un rôle fondamental, ceux du IIe siècle comme ceux du IVe siècle et du Ve siècle. On s'est concentré essentiellement sur les conflits du IIe siècle, où se sont opposés les chrétiens aux tendances docétisantes et les chrétiens aux tendances adoptionnisantes. Les uns et les autres considérant Jésus comme le Fils de Dieu, mais plutôt divin pour les premiers et plutôt humain pour les seconds. Le Fils de Dieu étant une expression amphibologique qu'on peut comprendre de différentes manières et qui a été comprise de différentes manières, y compris chez les judéens non chrétiens. Il y a un réel enjeu de pouvoir dans ces conflits. À partir du caractère de la mère, on tente d'attribuer au Fils un caractère plus ou moins divin ou un caractère plus ou moins humain. Des conflits qui vont perdurer durant plusieurs siècles, au moins jusqu'au Ve siècle, et vont diviser les communautés chrétiennes, les unes plutôt d'origine gréco-romaine, se voulant proches du pouvoir, en établissant un lien entre le Christ et l'empereur. Les autres, plutôt d'origine judéenne, se voulant loin du pouvoir, en refusant ce lien au nom du christianisme des origines et d'une volonté de rupture avec tout pouvoir. Dans le monde gréco-romain, comme on le sait, il y a des dieux et des déesses. Les dieux ont besoin des déesses pour assurer leur pouvoir auprès des hommes et des femmes sur la terre. Telle est rapidement la représentation que les hommes se font du monde divin qui règne au ciel. Dans le monde judéen, une telle vision existe aussi. La divinité est souvent accompagnée d'une parèdre féminine. Je rejoins un peu l'hypothèse qu'a proposée il y a quelques années Thomas Romer. Le binitarisme que l'on a exhumé grâce aux travaux de certains chercheurs, comme par exemple Alain Segal ou Daniel Boyarin, entre dans cette perspective. C'est pourquoi considérer le monde gréco-romain comme polythéiste et le monde judéen comme monothéiste est source de difficultés. Dans les deux, il y a du polythéisme, si on veut utiliser ces termes, que je n'aime pas trop, et qui sont des termes tardifs. Polythéisme, ça date du XVIe, et monothéisme, ça date du XVIIe siècle. Il y a, en tout cas, du polythéisme et du monothéisme. Le problème est d'ordre politique et non d'ordre religieux. Le religieux est régi par le politique qui lui applique des modèles idéologiques à des fins de gouvernance. C'est ça qu'il y a au fond. Régissant les rapports entre les humains selon les modèles que l'on renvoie dans le divin. Dans le mouvement chrétien, Dans le mouvement chrétien, j'ai bientôt terminé, on trouve associé le Père avec l'Esprit, de pouvoir, comme c'est déjà le cas dans le judaïsme sacerdotal et synagogal, puis progressivement avec le Fils, trois pouvoirs. Toutes les difficultés doctrinales viennent de là. Comment faire pour que le Père et le Fils ne fassent qu'un, afin de maintenir la dualité du pouvoir ? Pour pouvoir réaliser cette association, on a fait appel à la mère du Fils, faisant d'elle une réalité divine afin que cela rejaillisse sur son Fils. Tout le protévangile de Jacques fonctionne autour de cette association qu'il réalise sur un mode littéraire, avec une doctrine non dite, à la fois humanisante et divinisante, à la fois adoptionnisante et docétisante, mais que les destinataires doivent déduire. Il le fait d'ailleurs différemment selon les époques. De tout temps, et j'en ai terminé, de tout temps pour favoriser Jésus de Nazareth, la figure de sa mère, Marie, a été utilisée. C'est sans doute la raison principale du développement du culte marial à partir des 4e, 5e siècles, dans le contexte des conflits christologiques et des conciles qui en ont résulté. Vouloir faire remonter ce culte au IIe siècle, comme certains critiques tendent à le faire pour des raisons théologiques, est un non-sens, car il devient ainsi impossible à contextualiser historiquement. Pour assurer la pureté de Jésus, car tout est question de pureté, surtout à partir du moment où vous voulez à tout prix considérer Jésus comme un être divin. Autrement dit, il ne peut pas être régi par les mêmes critères qu'un être humain. Pour assurer la pureté de Jésus, on a affirmé la pureté de Marie. C'est la raison essentielle pour laquelle la figure de la mère a été sollicitée. La question de la pureté de Jésus ne s'est évidemment posée qu'à partir du moment où on a valorisé son caractère divin et non plus seulement son caractère humain. Je vous remercie.